Chronique de mort et de vie, 5 octobre, 22h02. Sale journée. Il y a des jours comme ça où on se demande où est l'interrupteur pour arrêter l'avalanche. Mais c'est comme ça. C'est la LEM, la fameuse loi de l'emmerdement maximal. Il y avait cette vieille d'origine italienne, Rose, il y a 2 ou 3 ans, qui répétait toujours « La vie est une tartine de merde, on en mange une bouchée chaque jour ». J'avais trouvé ça marrant à l'époque. Et puis maintenant, quand je les entends me raconter leur putain de vie, je ne trouve plus ça si drôle. Aujourd'hui, Jocelyne. Les agonies, c'est comme les accouchements, il y en a qui se passent mieux que d'autres. Des qui se passent plus vite que d'autres. La première fois que j'ai entendu le médecin dire d'une mort « ça s'est bien passé », je me suis demandé sur quelle planète il vivait. Mais j'ai compris, après, et ça m'arrive de le dire aussi. Pour Jocelyne, la pauvre, ça n'aurait pas pu être pire. D'abord, ça a duré toute la journée. Ensuite, elle a crié pendant des heures. Elle a commencé à 8 heures, et le médecin était injoignable, probablement au golf ou dans un week-end en famille, et il a dû se dire que l'astreinte, c'était quand même un peu contraignant. Il n'allait pas faire ça à sa femme de se barrer en plein milieu du brunch pour aller administrer une sédation profonde à une vieille qui, de toute façon, ne passerait pas la journée. À l'hôpital public, évidemment, ça aurait été différent. Mais ici, on n'a pas les médecins sous la main. Et certains moins que d'autres. Bref. Il est arrivé à 16h, et malgré les calmants de cheval qu'on lui avait administrés, elle avait eu le temps de faire résonner son agonie dans tout l'établissement pendant toute la journée. C'était horrible pour elle, évidemment. C'est Marilyn qui s'en est occupée. Mais c'était horrible aussi pour toutes les autres. Le repas a été lugubre. Toutes ces petites brebis à l'abattoir qu'on forçait à entendre et à imaginer le martyr de leur sœur, comme une ultime torture avant que ce soit leur tour. Gloria a pleuré presque sans discontinuer, et j'ai eu bien du mal à la calmer. Elle ne va pas bien, Gloria. Ses yeux bleus ne sont presque plus bleus tellement ils sont rouges. Marie-Jo était en dialyse et elle marmonnait des prières. Elle m'a demandé si elle pouvait aider. Je lui ai dit qu'il ne valait mieux pas. Même Monique et Arlette ont fermé leur grande gueule pour l'occasion, du jamais vu. La nouvelle, Alice, a mangé de bon appétit tout en versant de grosses larmes, puis elle est repartie dans sa chambre et on ne l'a plus revue jusqu'au dîner. Quand Jocelyne est enfin morte, il y a eu un grand silence. Un grand silence et un grand soulagement. Pauvre Jocelyne, elle n'était pas très intelligente, pas très intéressante, pas très gentille. En vérité, elle ne manquera à personne ici. Lettre d'Arlette Tourneur à Madame Christine Chalon, directrice. 6 octobre. Madame la directrice, les mots me manquent pour exprimer mon instigation devant la journée que nous autres, débonnaires des érables, avons passé hier. Certes, je conçois que la mort n'est rien d'agréable pour qui que ce soit, et qu'elle soit aussi insubmersible qu'inévitable. Il n'en reste pas moins que les consistances qui ont entouré le décès de Jocelyne sont en tout point déplorables et relèvent entièrement de votre décidabilité. Premièrement, comment se fait-il que vous n'ayez, dans cet immense établissement, aucune chambre rissolée, voire insonorisée, qui permettrait à de telles douleurs de s'opprimer sans infliger à toutes les autres pensionnaires, pour certaines très insinuées et très anxieuses, le terrible concert de ululements qui a plongé tout l'établissement dans la poisse de 8 heures à 16 heures. Deuxièmement, étions-nous, en tant que débonnaires, les seuls à avoir constaté que la santé de Jocelyne se subodorait gravement depuis plusieurs jours? Cette fin de vie n'aurait-elle pu être émancipée et accompagnée d'ignements? Vous étiez vous-même présente au repas que nous avons ravagé le 27 octobre, il y a plus d'une semaine. N'avez-vous pas constaté par vos yeux que Jocelyne était dans la rapacité de s'alimenter? Troisièmement, est-il opérable que le médecin ne soit arrivé que 6 heures après le début de cette agonie? Si votre établissement est incapable de fournir une résistance médicale appropriée à celles d'entre nous qui en ont tristement besoin, ne faudrait-il pas revoir vos conditions contractuelles? Peut-on sérieusement paysager de payer 3 000 euros menstruels pour mourir dans ces conditions? Pour vivre dans ces conditions? Enfin, Je laisse un instant ma colère pour me faire le porte-parole de celles qui, évidemment, par leur état d'encombrement physique ou mental, ou par leur crainte de déplaire et d'encourir des fiançailles, ne pourront jamais se plaindre. Oui, je veux parler pour toutes ces vieilles décrépites dont vous frictionnez allègrement le porte-monnaie tout en méprisant leurs froids élémentaires. Je veux me faire leur porte-étendard. Je n'ai jamais dans ma vie mené de combat syndical ou névrotique plus brûlant et plus honorable. Je veux parler pour Geneviève, Marguerite, Blandine, Gloria et toutes les autres, les alités, les vacataires, les Alzheimer, les fantômes que vous enfermez dans des chambres roses et que nous ne voyons jamais ni au réfectoire ni dans la salle immune, mais qu'on entend parfois gémir. Qui sera comptable de leurs souffrances, madame la directrice? Qui, en dehors de nos synthétiques soignantes, se soucie seulement du bien-être de celles qui ne parlent plus? Je demande justice pour elle, justice pour cette journée de tortue psychologique que votre manque de colonisation, de prévoyance et d'humanité leur a infligée. Dans l'attente, madame la rectrice, d'une amélioration très discrète des conditions de vie des débonnaires et de la protection de leur sérénité mythologique aussi bien que de leur maturité physique, je vous prie d'agréger l'expression de mes sentiments meringués. Arlette T. Journal d'Alice L., 8 octobre. Je dois prendre mon mal en patience en attendant l'heure du petit déjeuner. Il commence à faire froid dans cette pièce, mais j'ai mis mon petit châle et j'ouvre mon journal. Je suis sûre qu'il constituera pour moi, dans mes heures solitaires, un compagnon précieux. Que dire de ces deux premières semaines ? Il faut bien avouer que, comme pour toute chose en ce bas monde, mon enthousiasme du début ne s'est pas entièrement maintenu à son niveau initial. Deux mortes en quelques jours, si près de moi, cela m'a donné à réfléchir. Mais j'en prends mon parti. Il faut bien que des gens meurent, et tant que ce n'est pas moi, je ne dois pas en être trop affecté. L'essentiel est de s'accrocher. Il paraît que l'agonie de Jocelyne a été atroce. Fort heureusement, mes appartements sont éloignés, et du reste, la surdité a ceci de bon qu'elle vous préserve des bruits désagréables. En vérité, je suis beaucoup plus contrariée par l'impression grandissante que madame la directrice me mène en bateau au sujet de la connexion Internet. J'avais pourtant bien spécifié qu'il s'agissait là d'une condition sine qua non, et voilà qu'elle invoque des arguties techniques, des problèmes auxquels il va sans dire que je ne comprends rien, et elle non plus d'ailleurs. Il y aurait des difficultés avec le fournisseur, ou le distributeur, ou le satellite, la fibre, le répartiteur, que sais-je encore. Que voulez-vous répondre à cela? L'idée m'est bien venue de me prendre moi-même au mot, et de lui annoncer que je ne souhaitais finalement pas rester dans ces conditions, mais cette seule idée m'a rendu insomniaque pendant deux nuits. Comment lui annoncer cela de manière courtoise? Et surtout comment l'annoncer à la famille? Que va-t-on penser de moi? On va me prendre pour une vieille gâteuse, qui dit blanc un jour et noir le lendemain, et on va me fourrer peut-être dans un endroit bien pire, où je n'aurai plus du tout mon mot à dire. Ici, au moins, j'ai cette superbe vue sur la forêt, le piano, le château, et puis je commence à me lier d'amitié avec quelques-unes de ces dames. Au dîner hier soir, j'ai longuement parlé avec Arlette et Monique. Je suis peut-être curieuse, mais je leur ai à nouveau demandé pourquoi elles se trouvaient ici, et non chez elles, car elles me paraissent à première vue tout à fait autonomes. Arlette a fini par me dire qu'elle avait eu un cancer du côlon, et qu'elle avait depuis plusieurs années un anus artificiel. Ce terme d'anus artificiel m'a toujours évoqué d'étranges plastiques, s'épanouissant dans des régions que je préfère laisser inexplorées. Mais je crois qu'il s'agit seulement en réalité d'une poche sur le ventre. Elle m'a dit qu'elle avait sérieusement songé à se suicider lorsqu'on le lui avait annoncé. Et puis elle a décidé qu'elle ne s'en occuperait pas, qu'elle ne le regarderait pas, ne le manipulerait pas, n'y toucherait pas, et le nierait de toute la force de sa volonté. Et c'est ainsi qu'elle a demandé à vivre aux érables, qui se trouvent assez près de sa famille, et où il y a des aides-soignants à disposition pour gérer ce genre de difficultés. « Est-ce que vous avez réussi à l'oublier ? » demandai-je. « Ma foi oui, plutôt bien, mais le prix à payer est très élevé. 3 000 euros par mois ? Oh, ça c'est le prix matériel, non ? Je parlais du prix métaphysique, la liberté. « Vous ne vous plaisez pas, ici ? » ?»« La mère Chalon est une mercantile de la pire espèce, mais j'ai mes habitudes, et puis... » Monique prétend que je perds la boule. « Vous ? Oh, mais c'est insensé, dis-je. Monique, vous la taquinez, n'est-ce pas ? » Monique suivait notre petite conversation avec un air un peu goguenard que je soupçonne être son air habituel. « Arlette va très bien, ma chère Alice. Elle va très bien tant qu'elle ne se pique pas d'écrire. » Arlette leva les yeux au ciel. « C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, fit Arlette. Ce n'est pas moi qu'on a placé sous tutelle. »« Vous êtes sous tutelle ? » demandai-je incrédule à Monique. « Disons que j'ai fait quelques achats inconséquents. » Arlette ricana. Quelques achats inconséquents. Non mais tu t'entends, Monique. Tu as dépensé 116 000 € en une seule journée. Je suis sûre que vous exagérez, Arlette, dis-je pour venir au secours de Monique. À sa place, j'aurais été affreusement gênée. C'est qu'il m'est arrivé à moi aussi de confondre un peu les francs et les euros, de dépenser des sommes indécentes pour des bêtises. Heureusement, personne ne s'en est aperçu. Je mourrais de honte si cela se savait. Mais nous ne sommes pas toutes taillées sur le même modèle, ni dans la même étoffe. Et Monique est partie d'un grand éclat de rire. « Je revois, je revois !» Elle essayait de parler, mais le rire l'étouffait. Tonitruant, rabelaisien et communicatif. « Je revois la tête de mon fils » finit-elle par articuler. À ces mots, Arlette, qui riait aussi, reprit son sérieux et me glissa à l'oreille. Elle ne l'a pas revue depuis. Monique ne s'aperçut pas de la messe basse, tant elle se débattait avec son hilarité. Tout le monde nous regardait, et Marilyn nous fit les gros yeux. « Du calme, Monique. Vous savez comment ça se termine, en général. Cela dégénère toujours. » Ces mots firent à Monique l'effet d'une douche froide. Elle retourna à son assiette de lentilles, et ne dit plus un mot. « C'est une femme plus sensible qu'il n'y paraît, sous des dehors un peu vulgaires. Je suis sûre qu'elle gagne à être connue. »
Email du 10 octobre à 8h50. Destinataire, christine.chalon@dire-lesérables.com. Expéditeur, kelly.lemercier@performance.enmarche.fr. Objet, votre feuille de route, Santé Finance Plus. Chère madame, comme convenu, suite à votre virement, je vous adresse mon rapport et votre feuille de route Santé Finance Plus. Tous les prévisionnels chiffrés se trouvent en annexe. Vous trouverez également en annexe un second prévisionnel ne prenant plus en compte la réglementation en vigueur. Bien sûr, les éléments de ce second prévisionnel ne sont à considérer que dans le cas où la législation en vigueur changerait dans un avenir plus ou moins proche. Avant de vous en souhaiter bonne réception et bonne lecture, je voulais vous dire combien j'avais été heureuse de travailler pour votre établissement. Une belle entreprise avec un énorme potentiel qui, je suis sûre, va voir son chiffre d'affaires repartir en quelques mois. Je vous invite, si vous êtes satisfaite de notre intervention, à renouveler votre démarche, éventuellement pour un forfait excellence, plus complet et plus pertinent, qui permet souvent d'améliorer encore la marge de progression de l'entreprise. Bien cordialement, Kelly Lemercier. Pièce jointe, feuille de route Santé Finance Plus. Postes budgétaires sur lesquels des économies sont réalisables sans contrevenir aux normes actuellement en vigueur. Première colonne, économies réalisables. Deuxième colonne, éléments de communication accompagnant leur mise en place. 1. Masse salariale. Première colonne, infirmiers. Cessez de les faire venir le week-end afin d'éviter les heures majorées. Éléments de communication, mise en place d'une responsabilisation des aides-soignantes dans la perspective d'une progression de leur carrière. Kinésithérapeute. Réduire le temps de la séance à 10 minutes par personne. Éléments de communication. De récentes études ont montré que le bénéfice de la séance était tout entier contenu dans les 10 premières minutes. Aide-soignant. Réduire leur présence la nuit. Un seul aide-soignant suffit chaque nuit pour l'ensemble des pensionnaires. Éléments de communication. Vous avez constaté que souvent la présence de nuit n'était pas utile et que les deux personnes faisaient double emploi. Réduire l'amplitude horaire des aides-soignants. Éléments de communication. Réduire l'amplitude horaire permet aux aides-soignants de se consacrer davantage à leur propre famille. Économie à réaliser. Plutôt que d'employer 3 titulaires, employer 2 titulaires et 1 stagiaire renouvelable. Licenciement d'un titulaire. Éléments de communication. Les décès récents ont conduit à réduire la voilure. Le taux d'encadrement est devenu trop important. Économie réalisable. Technicien de surface. Procéder à 1 licenciement économique. Jardinier, procéder à 1 licenciement économique. Personnel de cuisine, procéder à 2 licenciements économiques. Éléments de communication. Devant la baisse du chiffre d'affaires, il a fallu faire des choix et vous avez choisi de donner la priorité aux soignants. Économie réalisable, intervenants extérieurs, résilier tous les contrats des intervenants qualifiés. Éléments de communication, les personnes que vous aviez engagées se sont engagées ailleurs et ne sont plus disponibles. 2. Frais de fonctionnement. Économie réalisable, électricité, avancer le couvre-feu à 18h45. Éléments de communication, les heures de sommeil avant minuit sont plus réparatrices. Économie réalisable, chauffage, réduire de 1 degré la température générale. Éléments de communication, les bactéries se développent moins dans un milieu plus frais, une température plus fraîche et vivifiante. Économie réalisable, restauration, réduire la portion de viande à 40 grammes par personne. Supprimer les ingrédients suivants, bœuf, poulet, poisson, chocolat, beurre, fruits frais, pain frais. Réduire la portion de confiture sur le goûter. Éléments de communication. Il faut faire un effort pour manger moins de viande en raison du réchauffement climatique. L'excès de protéines est très mauvais pour le foie. Le sucre est addictif et mauvais pour la santé. Économie réalisable, médicaments. Pour tous les médicaments dits de confort, divisez la dose par deux et donnez un placebo à la place. Éléments de communication. À destination des soignants, des études ont montré que pour les médicaments de confort, l'effet placebo constituait l'essentiel de l'efficacité thérapeutique. Économie réalisable, équipement sanitaire. Réduire le nombre de couches à 2 par jour. Éléments de communication. Les nouvelles couches sont beaucoup plus efficaces et absorbantes et permettent de gagner un temps précieux. Économie réalisable, matériel récréatif. Pas de nouvel investissement dans les 3 ans à venir. Éléments de communication. Pas de communication particulière sur ce sujet. Dans un souci pédagogique, afin que tout le monde adhère à cette feuille de route, voici quelques idées d'amélioration non onéreuse. La mise en place concomitante de mesures de restriction budgétaire et d'autres mesures dites écrans est une technique de communication très efficace, éprouvée par de nombreux gouvernements et de nombreuses équipes de direction. Il s'agit d'une stratégie de diversion et de compensation. Les usagers ont le sentiment de retrouver d'un côté ce qu'ils perdent de l'autre, et cela permet de diminuer d'environ 40% le nombre des protestations. Exemple de mesure écran à faible coût. Confier à des pensionnaires qui en sont capables des groupes d'activités pour suppléer le départ des intervenants extérieurs. Théâtre, loto, chant, dessin, cuisine. Créer des rituels agréables, des moments de musique quotidiens, des minutes du câlin quotidiennes, diffusion hebdomadaire de films anciens libres de droit. Laisser libre accès à la piscine pour des pensionnaires qui en sont capables, avec surveillance d'un technicien affecté au nettoyage de cette surface pendant une heure donnée. Adopter un chat ou deux et laisser les pensionnaires qui le souhaitent s'en occuper. Écrire aux écoles de la commune afin d'organiser des rencontres avec les enfants. Lettre de Monique à son fils, datée du 15 octobre. Mon cher fils, je ne sais pas si tu te rappelleras, si quelqu'un se rappellera, que j'ai été belle. Oh, pas belle comme les actrices de cinéma, non, mais belle quand même, comme beaucoup de jeunes femmes. Moi, je m'en souviens, et je me souviens aussi très bien de ce qui s'est passé dans ma tête quand j'ai réalisé que je ne l'étais plus. Que n'importe quel petit laideron de 20 ans était plus appétissant que moi, que je n'étais plus susceptible d'inspirer une passion. Tu sais, cela crée quelque chose, cette conscience d'être susceptible d'inspirer une passion. Quand on rencontre quelqu'un, même si tout se passe conformément aux conventions les plus strictes, il y a un arrière-fond de tragédie. On vit avec le sentiment d'une chute possible. La passion est une chose qui fait tout voler en éclats. Le mariage, les enfants, l'identité, la paix sociale. Chaque rencontre est une remise en jeu de tout cela. Chaque regard d'homme est un mystère dont la profondeur nous échappe. Les femmes, tant qu'elles sont belles, vivent sur la corde raide. Les jeunes filles, en tout cas celles qui n'ont pas eu le malheur d'être abusées enfants, ne se rendent pas compte de tout cela. Elles sont légères, et je crie haut et fort leur droit de l'être, leur droit d'ignorer les précipices qui bordent les chemins où elles caracolent en riant.
D'ailleurs, leur inconséquence les préserve le plus souvent. Pas toujours des brutalités, hélas, mais souvent des passions. Il faut de la gravité pour se lancer dans une passion. Il faut de la lucidité, il faut aimer le sacrifice, l'éternité, et d'une certaine manière, la mort. Et étrangement, c'est cette gravité qui attire les hommes. C'est pourquoi une femme de 30 ans qui a déjà éprouvé le pouvoir terrifiant de l'amour ne peut pas se permettre de prendre la vie à la légère. Elle sait que rien n'est innocent, que la passion peut venir vous détruire par n'importe où, qu'elle peut surgir chez le mari de la meilleure amie, le beau-frère, le beau-père respectable, le collègue, le vieillard, l'enfant. Elle a conscience qu'elle n'est autorisée nulle part à donner la pleine mesure de sa sensualité, de sa beauté, de son rire, de son intelligence, de sa soif de sensation, sans appeler le malheur sur sa tête. La femme lucide est toujours fatale. Alors forcément, quand on se réveille un matin et que ce pouvoir maudit a disparu, on éprouve un drôle de mélange de sentiments. La société nous dicte, comme d'habitude, ce que nous devrions ressentir. Nous devrions être inconsolables de la perte de notre beauté, comme si nous perdions tout à coup toute raison d'être. Nous devrions avoir du mal à franchir ce cap. Nous devrions nous lamenter parmi les vapeurs de la ménopause avant de trouver le courage de tourner la page. Mais moi, mon petit Stéphane, ce n'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Dans tous les deuils, il y a une part de liberté recouvrée. C'est là l'une des leçons les plus difficiles et les plus hautes que j'ai tirées de l'existence. Et faire le deuil de la beauté ne fait pas exception à la règle. Oui, c'est une forme de libération que cette perte sèche. On est libre soudain d'être maternel avec les jeunes gens et fraternel avec les hommes, libre de demander son chemin à n'importe qui, libre d'inviter à dîner n'importe qui. Délivré de ces sous-entendus omniprésents, de ces doubles fonds, de ces arrière-pensées, on goûte enfin, à nouveau, à une forme de légèreté, de simplicité dans les rapports humains. C'est pour ça que j'ai eu 2 carrières, mon fils, tu me l'as assez reproché. La carrière de tragédienne et la carrière de comique. Et si tu veux savoir, je m'amuse beaucoup plus depuis que je ne suis plus obligée de faire attention à l'effet que je produis sur les gens. Je m'amuse. C'est pour cela que je porte les cheveux rouges et des grosses lunettes colorées. J'adore être une vieille toquée.
Email du 16 octobre à 10h04. Destinataire, commissariat de police judiciaire de Mouhamorzon. Objet, mort suspecte aux érables. Expéditeur, christine.chalon@dire-lesérables.com. Monsieur, madame, pour faire suite à mon appel téléphonique de ce matin, je vous envoie par écrit des informations relatives au décès brutal de madame Geneviève Gautreau, découverte ce jour, vendredi 16 octobre, par madame Marilyn Chaumet, aide-soignante, lors de sa tournée du matin aux alentours de 7h45. Le certificat de décès 6 juin indique comme cause probable du décès strangulation, rapport aux marques de doigts violacées fortement imprimées sur le cou de la victime et à l'air général de suffocation sur le cadavre. Madame Geneviève Gautreau était âgée de 98 ans, n'avait pas d'ennemis connus et n'avait reçu aucune menace ces derniers jours. Elle menait une vie tout à fait tranquille, et pour tout dire assez végétative, dans l'établissement où elle était pensionnaire depuis près de 20 ans. Très proche de sa sœur Marguerite Gautreau, également pensionnaire dans notre établissement, Geneviève ne parlait plus depuis plusieurs années. Je vous envoie comme convenu la liste des pensionnaires ainsi que celle des employés. À notre connaissance, personne ne peut être soupçonné de la moindre violence et nous nous en remettons à votre compétence afin de faire le jour sur cette triste affaire. En espérant recevoir au plus vite l'officier chargé de l'enquête, je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de ma haute considération. Christine Chalon.
Journal d'Alice L. 16 octobre. Mon Dieu, on dirait que les choses se corsent. Oserais-je l'avouer, ici, dans le secret de mon journal? Je n'en suis pas mécontente. Cela met un peu de piquant. Un meurtre, voyez-vous, ce n'est pas du tout comme le décès sans relief de cette pauvre Zuleika, ou celui, sinistre et sordide, de cette malheureuse Jocelyne. Ce n'est pas seulement une petite vieille qui disparaît, c'est une histoire qui commence, une énigme à résoudre. Et je m'en rends compte à présent, je ne pourrais pas vivre sans histoire. Celle-ci a de quoi m'occuper un bon moment. laissez-moi remettre tout en ordre depuis le début. Geneviève, comme je l'ai déjà mentionné dans ce journal, était extrêmement âgée, presque centenaire. Tout le monde semble tenir pour acquis qu'elle n'était plus vraiment consciente. Mais moi, j'ai l'œil, et surtout, j'ai du flair, et je mettrai ma main au feu qu'elle se taisait pour une bonne raison. Cette dame avait de l'intelligence qui pétillait au fond du regard. Quand elle m'a accueillie lors de mon arrivée, je suis certaine qu'elle souhaitait me dire quelque chose. Voulait-elle appeler à l'aide ou simplement m'avertir? Elle me fixait avec cette drôle d'intensité, et bien que tout le monde autour ait fait comme si de rien n'était, j'ai bien senti au fond de moi qu'il y avait quelque chose à creuser là, dans cette profondeur muette. J'ai été bien sotte de ne pas écouter mon instinct. Peut-être aurais-je dû aller la solliciter, lui tendre un papier pour qu'elle écrive, ou approcher mon oreille de sa bouche pour qu'elle puisse y glisser son secret. Car j'en suis sûre, Geneviève avait un secret. Et elle a été assassinée, oui, assassinée, à cause de ce secret, c'est évident. Mais il est aujourd'hui trop tard. Nous étions attablés pour le petit déjeuner, avec Marie-Jo, Arlette et Monique, lorsque Madame la directrice a fait son entrée. Ce n'était que la troisième fois. Mais cette fois, j'ai eu le même réflexe que les anciennes. J'ai tout de suite balayé la salle du regard pour regarder qui il manquait. Et j'ai été la première à murmurer « Geneviève !»« Bon sang, la grenouille a raison, » dit Monique. « Il faudra d'ailleurs que je lui demande d'où vient ce surnom, affectueux mais un peu étrange, dont elle use pour parler de moi. » Marguerite était là, pratiquement décomposée, bien qu'elle fût tout de même légèrement plus vivante que sa sœur. Je n'imagine pas le choc terrible que cela a dû représenter pour elle, après un compagnonnage de près d'un siècle. Je la regardais un instant, toute ratatinée, comme si la mort de sa sœur l'avait fait rétrécir d'une vingtaine de centimètres, puis je détournais les yeux. « Mes bien chers amis, » dit Madame la directrice, « j'ai l'immense douleur de vous annoncer le départ de Geneviève, qui nous a quittés ce matin. » Je ne sais pas pourquoi, mais il m'a semblé bizarre que la directrice soit si affirmative sur l'horaire du décès. Pourquoi n'avait-elle pas dit « cette nuit » C'est à ce moment-là que je commençais à croire qu'elle en savait beaucoup plus qu'elle ne voulait bien le dire. Sa mort inattendue m'oblige à demander à la police de venir faire une enquête de routine. Ne vous affolez pas, mesdames, cela n'est rien d'autre que ce que je viens de vous dire, une enquête de routine, comme on en fait tous les jours suite à des décès non prévus. Non prévus, non prévus, elle avait quand même 98 ans, remarqua Monique. « Il y a quelque chose qui cloche, » dit Arlette. « Je suis parfaitement d'accord avec vous, » dis-je. Et tandis que Madame la directrice continuait à parler, devant Marilyn qui était visiblement en état de choc, j'ai prétexté un besoin urgent d'aller aux toilettes et je me suis faufilée dehors. Oh mon Dieu, quel frisson délicieux! Je me sentais comme Miss Marple. Je me rendis d'abord véritablement aux toilettes pour endormir les soupçons, et puis aussi parce qu'il ne faut jamais perdre une occasion de vider sa vessie. En sortant, quand j'ai vu que personne ne me surveillait et que le petit discours continuait bon train dans le réfectoire, je pris la tangente et je me hasardai dans les couloirs dans l'espoir de trouver la porte de Geneviève. C'est étrange comme ces couloirs se ressemblent tous. J'avoue que le sens de l'orientation n'a jamais été mon fort et il faut ajouter à ma décharge que je ne vais jamais dans cette partie des érables, étant logée à l'extérieur du bâtiment principal. Je n'en connais finalement que les parties communes. Ces couloirs blancs, ces portes numérotées entr'ouvertes, derrière lesquelles on devine des douleurs silencieuses, des ombres souffrantes, des râles étouffés. J'ai ouvert une bonne dizaine de chambres avant de tomber sur la bonne. Certaines étaient vides. Dans l'une d'elles, je suis sûre d'avoir vu une femme qui rampait à terre en gémissant. Dans une autre, une vieille dame échevelée jouait avec une matière puante qui ne pouvait être que fécale. Dans une troisième, une femme encore jeune était sanglée à son lit, et elle me fixait de ses yeux hagards, dont roulaient de grosses larmes. Mon Dieu, cette odyssée me fit comprendre, mieux que tous les discours d'Arlette, dans quel infernal hospice je me trouvais. L'horreur avait déjà touché mon cœur de sa main glacée, et elle resserra encore son étreinte quand je découvris presque à bout de nerfs la chambre de Geneviève. La pauvre était là, probablement telle qu'on l'avait trouvée, sans personne pour la veiller. Les marques du crime fleurissaient à son cou comme un étrange collier. Geneviève, étranglée, exorbitée, langue pendante, m'exhortait de ses yeux morts.
C'était la même impression que la première fois que je l'avais vue. La certitude que ses yeux recelaient une volonté farouche de témoigner et appelaient à l'aide malgré le mutisme dont souffrait la bouche. Et dans la mort elle-même, Geneviève continuait à supplier de la même façon. Son silence était plus profond, son immobilité plus rigide et plus froide, mais ses yeux criaient et roulaient pour l'éternité pour dénoncer le crime dont elle était victime. « Seigneur, je ne suis pas superstitieuse, mais se pourrait-il qu'une pauvre âme ainsi arrachée continue d'envoyer son message, même après sa mise en bière ? Le regard fantôme de Geneviève me poursuit depuis ce matin. J'ai l'impression de le voir dans les vitres et dans les miroirs et même sur les écrans de télévision. Je me demande combien de temps cela va continuer. Il ne me fallut pas trop longtemps, heureusement, pour reprendre mes esprits. La morte faisait un peu peur, mais je n'aurais pas de meilleure occasion de farfouiller, et je m'attelai à la tâche en me faisant une visière de mes doigts pour me protéger de la vision macabre. Il me devint vite évident que Geneviève et Marguerite partageaient la même chambre, et que la sœur devait avoir assisté au meurtre. Assisté ou commis ? Après tout, n'est-il pas envisageable que ce soit elle, justement, la coupable ? On voit souvent de ces aidants excédés qui, Dieu ait pitié de leurs âmes, cèdent à la violence envers leurs proches diminués. Quelle sombre pulsion a pu animer Marguerite aux petites lueurs du jour pour qu'elle s'approche de sa sœur et lui administre ce terrible viatique ? Quand je repense à cet étrange rétrécissement dont elle paraissait être victime ce matin, je me dis que ce n'est pas le chagrin, mais la honte qui l'a peut-être provoquée. Tandis que ces idées fusaient dans mon cerveau à une vitesse ahurissante et que je me sentais tout excitée, je crus mourir de frayeur lorsque je vis se dresser devant moi la silhouette de Marie-Jo, que je n'avais pas entendue entrer. C'est fou ce qu'elle peut être silencieuse, cette femme. Une vraie démarche de chat. « Alice, que faites-vous ici ?»« Marie-Jo, vous m'avez fait peur. J'ai cru que c'était le meurtrier qui revenait achever son œuvre. Regardez !» Marie-Jo, qui était venue justement pour ça, jeta un œil horrifié sur le cadavre et se signa trois fois. Puis elle s'approcha de Geneviève et écarta légèrement les plis du cou, ridés comme celui d'une tortue, pour mieux voir les marques de strangulation. « Vous ne trouvez pas que ses doigts ont une drôle de forme, Alice ?» Je n'avais pas envie de regarder, mais il me semblait ridicule de me dérober maintenant que j'étais plongée dans l'action. Et je regardais consciencieusement, à travers mes doigts écartés, car je ne parvenais pas à me résoudre à retirer tout bonnement ma main posée en visière. « Peut-être, dis-je, la forme est bien pointue. »« Exactement, » dit Marie-Jo d'un ton lugubre, « les marques sont pointues, comme s'il y avait des griffes. » Ce qu'elle disait m'étonna tellement que je retirai finalement ma visière. « Mais non, voyons, elle n'a pas de griffure, il n'y a pas même une égratignure. » « Je vous parle de la forme des doigts. On ne dirait pas des doigts humains. Vous êtes d'accord ?» Je trouvais qu'elle allait un peu vite en besogne et qu'elle se laissait aller à de sottes superstitions. « Eh bien, à vrai dire, je ne vois pas ce qui vous fait dire ça, Marie-Jo. Nous ne sommes pas expertes en marques de strangulation et il me paraît tout à fait possible que des doigts humains impriment cette forme. » Marie-Jo ne s'offusqua pas, mais tout en bougeant les lèvres comme si elle récitait machinalement une prière, elle posa ses doigts devant les marques violacées comme pour les comparer aux empreintes. « Vous voyez, Alice, moi j'ai des grandes mains, je fais du neuf, et ces marques sont beaucoup plus grandes. »« C'est peut-être un homme, » suggérai-je, tout en me demandant si Marguerite, par hasard, n'avait pas de grandes mains. « Ou bien ce n'est pas un homme, justement, » dit Marie-Jo, dubitative et rêveuse. Elle sortit un gros cierge de sa poche et entreprit de l'allumer sur la table de chevet. « Mais que faites-vous ? Vous n'avez vraiment aucun respect pour les morts dans ce pays. Vous ne pensez pas qu'on va vous gronder ? Je n'ai de compte à rendre qu'à Dieu. » Cette phrase, prononcée solennellement, avec cette morte exorbitée derrière, avait, il faut le dire, beaucoup de panache. Je hochai la tête sans insister, et je continuai à fouiller, tandis que Marie-Jo s'activait à un rituel qui impliquait un crucifix, de l'eau, une poudre que je n'identifiais pas, et des psalmodies muettes. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais. Un journal intime de Marguerite, un paquet de lettres d'amour jaunies enroulées d'une mèche de cheveux, une paire de gants du 11. N'importe quoi aurait fait mon affaire, pourvu que cela indiquât que je me trouvais dans la bonne direction. Malheureusement,
Katia arriva sur ses entrefaites et nous passa un savon à toutes les deux. Elle cria surtout contre Marie-Jo, qui avait touché le corps et dérangé la scène de crime, comme elle l'appelait. « Madame la directrice sera furieuse, » répéta-t-elle plusieurs fois. « Vous ne devez répéter à personne ce que vous avez vu. Promettez-le-moi. » Marie-Jo refusa catégoriquement de promettre, avec un air de défi. Quant à moi, je jurais sur tout ce que j'avais de plus sacré, mais en croisant les doigts derrière le dos. À la fin, excédée de ce qu'elle appelait nos gamineries, elle nous congédia et claqua la porte derrière nous. En sortant, je ressentis une solidarité très forte envers Marie-Jo, qui avait fait front avec moi contre l'oppresseur, et je lui pris le bras dans un grand élan de fraternité. « Nous savons ce que nous avons vu, lui dis-je, volontairement vague. Elle me sourit. « Vous avez été magnifique, ajoutai-je, comme si nous sortions de scène. J'ai adoré votre... Je n'ai de compte à rendre qu'à Dieu. » Elle me regarda un instant, étonnée, comme si je disais une chose vraiment étrange, puis elle disparut dans sa chambre, de sa démarche furtive. Et moi, je me suis dépêchée de revenir dans la mienne pour tout consigner par écrit. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai laissé le petit déjeuner en plein milieu, et que j'ai encore faim.